France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Le bonheur est-il dans le désir ? Suite de cette série, aujourd'hui nous rendons hommage au philosophe français Robert Misrahi, disparu en 2023, qui a beaucoup réfléchi au désir et au bonheur. Robert Misrahi a marqué tous ceux qui l'ont approché. Si le grand public a moins entendu parler de lui que les philosophes, cela ne ternit en rien son aura intellectuelle. Misrahi a construit une œuvre propre, ce qui n'est pas commun chez les universitaires. Il avait fait sa thèse sous la direction de Vladimir Yankélévitch, auquel il a succédé ensuite à la chaire de morale et de politique de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L'originalité de la pensée de Robert Misrahi est qu'il pense le désir, tout à la fois avec un certain héritage de Spinoza, puisque le désir est pour Misrahi le mouvement même de conservation de l'être dans la nature, et avec un certain legs provenant de Sartre, puisque le désir est aussi, aux yeux de Misrahi, ce qui donne à l'être humain la conscience de sa radicale liberté. Le désir nous rend donc libres et responsables, ce qui a pour conséquence que la quête d'une satisfaction profonde de nos désirs, la recherche d'une vie heureuse, n'est pas une quête solitaire, autarcique, narcissique, mais cela pose d'emblée la question des autres, de leur vie heureuse à eux aussi. Il reste que toutes ces articulations de la pensée de Misrahi méritent des précisions. Eh bien, nous avons réuni pour en parler ce matin trois personnes qui l'ont très bien connu, lu et apprécié. Bonjour Catherine Lanfranchi. Est-ce qu'on dit comme ça ou on dit Lanfranchi ?
Non, on dit Catherine Lanfranchi.
Eh bien, c'est entendu.
Bonjour Géraldine.
Bonjour, vous êtes une grande lectrice de philosophie, même si je crois que votre métier est tout différent.
Oui, je suis venue à la philosophie par passion. Et donc ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est d'être entrepreneur dans le domaine de la remise en forme physique et psychique.
Un peu coach sportif.
Voilà, c'est coach sportif, un peu psychanalyste, consultant. Un peu tout ça.
Et vous avez découvert donc l'œuvre de Robert Misrahi que vous avez fini par rencontrer en 2014, oui. Ce qui a conduit à près de 10 ans d'amitié. Vous avez publié chez L'Harmattan en 2022 un dictionnaire des concepts clés de son œuvre. Ça s'appelle « Une philosophie du bonheur, construction d'une doctrine ».
C'est ça.
Bonjour Fabrice Guéot.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de philosophie et vous aussi, vous avez bien connu Robert Misrahi, c'était votre ami. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur sa pensée, livres publié chez L'Harmattan. Et bonjour Arnaud Münster.
Bonjour.
Vous êtes un philosophe franco-allemand très prolifique. Votre œuvre est énorme, je dirais même, consacrée à de nombreux philosophes et courants de pensée du XXe siècle, Ernst Bloch, les penseurs de l'école de Francfort et tout particulièrement Herbert Marcuse, mais encore des figures comme André Gors ou Günther Anders. Et vous venez de rendre un hommage à Robert Misrahi dans un ouvrage lui aussi paru chez L'Harmattan, intitulé « Pour une éthique du désir et du bonheur ». Vous êtes à Nice, je remercie les équipes d'ICI Azur qui vous accueillent. Dans son autobiographie publiée en 2012, intitulée « Le nacre et le rocher », Robert Misrahi écrivait ceci à la dernière page. « Face à la grande baie ouverte sur le ciel et les tendres collines, j'écoute, de Mozart, le premier mouvement de la sonate pour piano numéro K282. Sur mon bureau, dans ma maison du bord de Seine, face aux éclatantes falaises blanches, à la fois nacres et rochers, j'ai placé la photographie de Colette. Son beau visage et son grand sourire sont tournés vers l'avenir. C'est donc la raison pour laquelle nous commençons cette émission par ce premier mouvement de la sonate pour piano indiquée par Misrahi, sonate de Mozart, et ce premier mouvement est un adagio. Je voudrais vous demander, Catherine Lanfranchi, de quelle Colette parle-t-il Robert Misrahi là ?
Alors, Robert Misrahi parle de Colette, sa femme, qu'il a connue lorsqu'il avait une vingtaine d'années, qui était elle-même étudiante en philosophie, et avec laquelle il a passé près de 60 ans de sa vie, qu'il a énormément aimé. Elle était psychanalyste et il n'avait pas du tout la même conception, en fait, de la conscience, de l'inconscient. Il ne croyait pas en l'inconscient. Mais toujours, ils se sont accordés sur le fait que l'objectif était le bonheur et que la psychanalyse et la philosophie misraïenne arrivaient au bonheur. Donc, c'est sa femme très aimée qui est partie avant lui.
Fabrice Guéot, peut-être vous aussi voulez-vous dire quelques mots sur son couple. En tout cas, il y a un concept chez lui qui s'appelle l'amour tout autre. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, l'amour tout autre, c'est un amour qui est le fait de personnes qui sont déjà passées par ce qu'il appelle dans sa philosophie la conversion, c'est-à-dire qui a transformé la banalité des passions ordinaires en une existence réflexive et donc qui, sans rien rejeter, et on le verra tout à l'heure, mais il ne s'agit pas du tout de contrôler ou de maîtriser ses désirs, mais il s'agit simplement de les assumer en prenant conscience du fait que quand on est conscient du contenu de ses désirs, ça change la nature du désir lui-même, et ça, de ce point de vue-là, c'est un héritage de Spinoza. Et donc, dans l'amour, quand cet amour existe entre deux personnes qui sont ou philosophes, ou qui en tout cas ont atteint un haut niveau de réflexivité, eh bien, cet amour est une joie authentique et une sorte de splendeur.
On va parler de cette histoire de conversion. Il y a plusieurs niveaux de conversion à obtenir. Ça semble faire un peu écho aux trois genres de connaissances de Spinoza dont nous avons parlé dans l'épisode précédent de cette série. Néanmoins, le mot de conversion est un peu existentialiste, pas seulement religieux, mais existentialiste, oui. Une conversion dans l'existence.
Absolument.
Ça peut aussi évoquer les différents stades de Kierkegaard, par exemple. Et donc, ça pose la question du rapport à Sartre aussi, puisque à la fois chez Misrahi, il y a l'héritage de Spinoza et l'héritage de Sartre. Arnaud Münster, est-ce que vous voudriez dire d'emblée quelque chose, vous qui avez écrit sur Misrahi, à propos de son rapport à l'amour ?
Oui, je voudrais souligner, donc, en reprenant la thématique qui a été exposé tout à l'heure, le rapport avec Misrahi avec la psychanalyse, c'est tout à fait fondamental, je pense. C'est qu'il cycle en commun avec Sartre. C'est précisément ce refus de l'existence de l'inconscient. On le voit au passage respectif dans son autobiographie « La nacre et le rocher ». Où il dit expressément, donc, il n'est pas contre la psychanalyse, mais c'est sur ce point exactement de l'inconscient où il exprime une réserve qui est tout à fait caractéristique et qui, s'il le fait, c'est parce que vraiment elle est reconfrontée sur cette position critique à l'égard de l'inconscient par Sartre. La philosophie, dit-il, et la psychanalyse recherchent le même but, faire du sujet son propre souverain et le rendre capable d'accéder à la joie. C'est-à-dire, il oppose une conception éthique de la psychanalyse. La psychanalyse, dit-il, comme éthique que je défends, souhaite faire passer l'individu quotidien et passionné à une plus grande maîtrise de soi. ça aussi revoit à Spinoza, hein, c'est-à-dire à une meilleure conscience de soi, à une meilleure réflexion créatrice, à une meilleure autonomie. Et donc on passe donc chez Misraï progressivement d'une conscience obscure à une conscience plus claire, et d'une conscience claire à une conscience réfléchie. Donc au troisième niveau, n'est-ce pas, de liberté. C'est ça, ça c'est un aspect important. Je pense qu'on ne devrait pas oublier. Donc il était évidemment marié à sa femme Colette, était psychanalyste, n'est-ce pas. Et, malgré donc cette réserve, donc elle a continué à défendre cette position. Voilà.
Alors, je vous propose, on va continuer. De toute façon, nous avons toute cette émission pour explorer l'œuvre et la conceptualité de Misraï. Mais je vous propose qu'on l'entende quand même, d'emblée, et qu'on l'entende parler du bonheur, ce qui nous amènera à retravailler ensuite, dans le commentaire, un certain nombre de choses importantes qu'il a dites. Écoutez Robert Misraï, philosophe, dans le grand entretien sur France Inter le 5 juin 2012.
Il faut que le bonheur soit une expérience. Mais que peut être cette expérience concrète du bonheur ? Il faut que cette expérience soit renouvelable. Il faut qu'elle soit mon expérience. Il faut que j'aie pu la vivre jadis, que je puisse la vivre maintenant, que je puisse la revivre encore. Quelles sont ces expériences qui vont constituer le matériau de ce que je vais appeler bonheur ? J'appellerai bonheur la possibilité que j'ai de vivre ces expériences. C'est ce que j'appelle la joie. Mais pas la joie passive, pas la joie n'importe comment. Je regarde les numéros du loto ou de la tombola et j'ai gagné, je suis content. Non, c'est pas à cette joie que je pense, c'est-à-dire à une joie extérieure. C'est une joie active, c'est la joie de la création et de la contemplation créatrice. Écouter une musique de Mozart, comprendre un opéra de Mozart, se réjouir de contempler activement une peinture de Renoir, c'est-à-dire éprouver une grande joie. Il est clair que pour accéder à l'intensité de joie active et de bonheur créateur que j'indique, il est clair que un minimum de culture est important. C'est l'une des tâches fondamentales de la démocratie, de donner à tous une culture philosophique.
Alors, vous avez de nouveau entendu là la mention de Mozart, qui l'a accompagné toute sa vie. Je voudrais qu'on dise un mot du personnage, parce que puisqu'il dit que le bonheur est d'abord une expérience, eh bien forcément, ça invite à réfléchir à son expérience. Or, l'enfant Robert Misraï n'a pas été très gâté par la vie au début. Il est né en 1926 à Paris, dans une famille juive de Turquie. Son père était tailleur, mais a connu un chômage douloureux.
Absolument.
Sa mère ne travaillait pas, je crois, et a eu par ailleurs des problèmes psychiatriques. Ah, ça, c'est lourd pour un
tout
enfant.
Tout à fait. C'est très
et donc, est-ce qu'on peut dire que, bon, par ailleurs, la guerre n'a pas épargné sa famille en termes de déportation, d'assassinat.
Absolument.
Est-ce qu'on peut dire que Robert Misraï a choisi d'être heureux ?
Oui, je crois. En fait, il a fait de sa souffrance le point de départ de sa philosophie du bonheur. C'est parce qu'il a connu probablement la souffrance qu'il a décidé de créer une philosophie du bonheur. C'est aussi parce que quand il avait 14 ans, il a eu une expérience très intense de bonheur. Lorsqu'il a été évacué avec les enfants de son école, du 13e arrondissement, du côté d'Angers, dans un château de la Renaissance. Et il a passé un an, si vous voulez, avec ses instituteurs, ses institutrices et avec ses camarades de classe. Lui qui avait l'habitude d'être très seul parce que sa mère était effectivement... n'était plus là, elle était malade, et son père était souvent en train de chercher du travail. Et donc, c'est de cette expérience de joie, et notamment de joie amoureuse, on parlait de l'amour, de joie amoureuse platonique avec son institutrice à une grande profondeur, c'est de cette joie dont il s'est souvenu Et il s'est dit, quand il est rentré à Paris, au moment de l'occupation, c'était difficile, mais il a dit que la joie était possible. Et en fait, il n'a eu de cesse qu'à retrouver cette joie, ce bonheur. Oui, on peut le dire
ça. Ce bonheur est à choisir, notamment par la connaissance, par l'école.
Bien sûr.
La rencontre de la vie intellectuelle parisienne, il va se rapprocher de Sartre, on va en parler. C'est vrai que c'est très spinoziste, ça. Nous venons de faire une émission sur Spinoza, Désir et Bonheur. L'idée qu'il faille engager un travail de connaissance, que c'est connaissance des bons objets du désir, une démarche intellectuelle qui va soutenir le bonheur, qui va le préparer. Ça, c'est très spinoziste. Et si j'ai bien compris Fabrice Guéot, Spinoza est la première grande lecture du jeune homme Robert Misrahi.
Effectivement, il a découvert l'éthique de Spinoza en classe de terminale. Il était avec le professeur Raymond Paulin, hein, qui n'est pas n'importe qui a écrit entre autres La création des valeurs. Et donc, il a lu avec grand enthousiasme Spinoza. Et puis, plus tard, il a découvert, en 1943, L'être et le néant, dont on reparlera. Mais s'agissant de Spinoza, l'aspect essentiel, c'est d'abord l'athéisme qu'il y a vu, ce qui n'était pas une interprétation unanime à l'époque, et toujours pas maintenant d'ailleurs. Et puis, surtout, les livres 3, 4 et 5 de l'éthique, c'est-à-dire sur la nature humaine, sur l'origine des affects, etc., etc. Et là, il a découvert effectivement que la mécanique des passions correspondait à son expérience au bout du compte. Et plus tard, il dira que c'est beaucoup plus intéressant que les passions de l'âme de Descartes, par exemple.
Robert Misrahi, le problème philosophique le plus aigu que nous avons ce matin et qui est sans doute qui résume, si on ose faire cela, résumer une démarche, celle de Robert Misrahi, il y a un problème au cœur de cette démarche, c'est comment peut-on concilier Spinoza et Sartre ? Spinoza, certes, pense qu'on peut sortir de la servitude et donc il y a un mouvement d'émancipation par la connaissance, etc. Mais enfin, dans le cadre quand même d'une détermination assez importante. N'importe qui nous disait hier, Bernard Potrat, spécialiste de Spinoza, ne peut pas trouver des chemins inédits pour être heureux. Il n'y a pas de liberté radicale chez Spinoza. Or, il y en a une chez Sartre. Quel est exactement le rapport à Sartre de Misrahi ? Était-ce important pour quitter Spinoza ou vraiment, Arnaud Münster, a-t-il envisager cette chose un peu folle en philosophie qui était de concilier Spinoza et Sartre?
Oui, absolument. Je pense que l'originalité et la grandeur de l'œuvre de la pensée de Robert Misrahi consiste dans le fait qu'il a évidemment réussi à faire cette synthèse. Peut-être parce que, évidemment, si on regarde sa biographie, alors on trouve que, lorsqu'il était encore dans un lycée privé à Paris, sur les cours Jacques, il y avait un de ses professeurs qui lui avait parlé de Spinoza. C'est là, évidemment, qui naît chez lui ce grand intérêt pour le philosophe de l'éthique. Le deuxième grand événement, évidemment, dans sa vie, c'était la rencontre avec Sartre en 1943, quelques semaines seulement après la publication de L'être et le néant. Une rencontre qui avait eu lieu au café Les Deux Magots, café Le Flore, dans le quartier Saint-Germain de Paris. Et voilà, donc comment se fait cet approchement, comment se fait cette synthèse? Alors, il faudrait d'abord constater et souligner que ce que nous propose Misrahi, c'est une nouvelle philosophie définie comme une sorte d'anthropologie phénoménologique qui est prioritairement définie comme une nouvelle pensée du sujet, c'est-à-dire comme une pensée du sujet, non pas d'un sujet, comme sujet, d'un désir, d'un sujet désir essentiellement défini comme volonté consciente d'un être physico-psychique décidé à s'affirmer dans le monde, à s'affirmer dans le monde en toute liberté. en construisant ainsi sa vie, son existence, par un agir rationnel dirigé vers la transformation du monde, grâce à la réflexivité de son désir, conscience. Donc, et pour définir cette nouvelle théorie du sujet, Misraï emprunte en effet à Sartre, c'est-à-dire à Sartre de l'être et le néant, il faut le préciser parce que il s'adresse prioritairement à cela, beaucoup moins à la critique de la raison dialectique de 1960, il emprunte à Sartre l'idée, le concept de conversion, un concept que Sartre applique au pour-soi pour devenir un en-soi pour-soi, en distinguant principalement trois formes de cette conversion. Un, la conversion en tant que commencement, au sens cartésien de la première certitude. Deuxièmement, la conversion existentielle en tant que décision du sujet d'instaurer un nouveau commencement dans son existence. Et troisièmement, la conversion à autrui, à l'autre, comme réalisation du désir de partager la liberté et le bonheur. Et à ce propos, bien sûr, qu'on part évidemment dans le premier tome sur le traité du bonheur, c'est conversion au travail de construction de château.
Alors, merci. Ne vous inquiétez pas, on va revenir à ces points. Merci d'avoir introduit la notion de conversion, qui est donc en réalité existentialiste, sartrienne. On peut changer, on peut s'inventer. D'ailleurs, dans un livre de 2008, Le travail de la liberté, Robert Misraï écrit ceci: la conversion est un acte de la volonté, un acte volontaire. Elle est le refus de la vie empirique et banale qui allie l'ennui, la servitude et la souffrance auxquelles peuvent s'ajouter la misère et la solitude. Mais elle est aussi, cette conversion, l'affirmation d'une nouvelle attitude et d'un acte nouveau. Et d'ajouter, la conversion est donc à la fois courage et invention. Ce registre de la volonté, évidemment, pour les gens qui apprécient Spinoza, constitue une rupture. Misraï est peut-être quand même plus sartrien que spinoziste, non?
Alors, Catherine Lanfranc. Moi, je crois qu'il a... C'est l'enfant de Spinoza, c'est l'enfant de Sartre, et qu'il a su, effectivement, prendre le meilleur, selon lui, chez ces deux personnes, ces deux immenses philosophes. Il ne tarit pas d'éloges. Il a pris la liberté sartrienne, il a pris le bonheur spinoziste. Et en fait, lisant Spinoza, il se demandait, mais comment peut-on arriver à la béatitude si on n'est pas libre, si on est complètement déterminé? Il ne comprenait pas. Et il rencontre Sartre, entre guillemets, en 43, et là, il est sous le choc de la liberté de l'être et le néant, et là, il comprend qu'en fait, le bonheur de Spinoza est possible grâce à les libertés sartriennes. Et en fait, il va simplement prendre la liberté sartrienne et le bonheur. Il dit que Sartre met en place la liberté, mais il n'a pas donné d'objectif à la liberté.
Oui,
et
ça
il
c'est
dit,
important.
Voilà, et
oui.
Il dit que Spinoza, lui, a l'objectif qui est la béatitude, mais il ne se donne pas les moyens puisqu'il estime que Spinoza, en fait, est pour un déterminisme absolu. Donc, lui, il va prendre la liberté sartrienne
oui.
et le but de la joie spinoziste
Entendu.
Avec une méthode qui est la phénoménologie oui. Dont on parlera peut-être plus tard.
Alors, pour les auditeurs, je voudrais quand même que les choses soient très précises. La conversion, ça n'a rien de religieux chez Misraï. Il écrit toujours dans la page du Travail de la Liberté, son livre de 2008 que je citais, il écrit « La conversion est humaniste et non pas religieuse, volontariste et non pas contemplative. Elle est un acte, un travail de l'esprit réfléchi. » Fabrice Guéot, c'est vrai que chez Sartre, la liberté radicale, on en fait ce qu'on veut. L'enjeu du bonheur peut apparaître, mais n'est pas central. L'enjeu peut-être le plus central chez Sartre, c'est pouvoir se regarder tous les jours dans la glace, c'est-à-dire sentir fortement sa responsabilité, le fait qu'on est responsable de ses actes, et le fait qu'on est toujours engagé, même quand on croit qu'on ne l'est pas. On a toujours un engagement moral, politique, même quand on croit, quand on essaie d'échapper à cette pensée. C'est pas du tout ça qui intéresse le plus Misraï?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que pour Misraï, enfin, selon Misraï, selon la lecture qu'il fait de Sartre, mais là je crois qu'il a raison, Sartre n'a poursuivi que la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'il a parfaitement décrit la banalité ordinaire de la servitude, donc les relations à autrui qui sont conflictuelles, le renvoi à la lutte du maître et de l'esclave chez Hegel. Mais en fait, Sartre lui-même, dans une note dans L'être et le néant, à la fin du chapitre sur la relation à autrui, explique que certes, une doctrine, une morale du salut est possible, mais au-delà d'une conversion. Et nous l'aborderons, dit Sartre, dans un prochain ouvrage, travail qu'il n'a en fait jamais accompli. Mmh. Et la description que Sartre donne de la liberté dans L'être et le néant, Misrahi explique que c'est une conception tragique, c'est-à-dire que l'homme est condamné à être libre, l'existence humaine est, semble-t-il, par nature un échec, et donc tout ce pessimisme de Sartre, Misrahi le corrige par le recours à Spinoza, et donc au traité de la réforme de l'entendement, je préfère l'ancien titre, et à l'éthique. Mais il faut tout de suite préciser une chose, c'est que à travers Sartre, c'est vraiment la phénoménologie qui va l'intéresser, et il nous expliquait, entre autres, que Husserl n'a pas écrit des méditations spinozistes, mais des méditations cartésiennes. Et c'est pas pour rien, parce que Misrahi est entièrement d'accord avec l'affirmation de Descartes selon laquelle nous expérimentons que nous savons que nous sommes libres par la seule expérience que nous en avons. Et donc, en fait, ce qui est derrière tout ça, alors c'est un petit peu de la grosse artillerie conceptuelle, mais c'est une critique de la doctrine des facultés. C'est-à-dire que pour les classiques, et il en était encore question dans cette émission mardi et mercredi, en fait, les désirs, ils surviennent, ils sont là, on les laisse passer ou pas. La question, c'est de savoir si on doit les maîtriser. Or, pour Misrahi, la question ne se pose absolument pas comme ça, parce que par la phénoménologie, bon, j'observe ma propre conscience, je n'ai pas accès à votre conscience, à vous, Madame Mühlmann, et vous n'avez pas accès à la mienne. Mais par contre, moi, je sais que nous sommes tous les deux des êtres humains, que nous avons des structures de conscience similaires, et donc on peut comprendre un certain nombre de choses. Et je terminerai en disant que, en fait, je n'expérimente jamais, moi, dans mon vécu, que j'ai d'un côté la volonté et de l'autre le désir. C'est dans l'unité d'un seul et même esprit, d'une seule et même conscience, qui se fait à un moment donné volonté, ou qui se fait à un moment donné désir, ou qui choisit le dépassement. Et ça, il faut bien le comprendre, et ça rend raison de la synthèse misraïenne entre Spinoza et Misrahi, parce que la liberté ne se connaît que par le troisième genre de connaissance. Le deuxième genre de connaissance, lui, ne peut comprendre que du déterminisme.
Ne vous inquiétez pas, Arnaud Münster, vous allez aussi nous parler du rapport de Misrahi à la liberté au sens de Sartre. Mais je voudrais juste qu'on entende une nouvelle fois Robert Misrahi sur cet enjeu de la liberté. Il s'agit cette fois d'une archive de la Grande Librairie sur France 5. C'était le 30 janvier 2014.
N'ayons pas peur de la philosophie. Elle s'adresse à tout le monde. Et c'est la base. Est-ce que vous construiriez une maison sans préparer les fondations ? Il y a des fondations à faire tranquillement, il faut prendre son temps. Philosophie du désir, du libre désir. Alors, la destination d'un être humain, quel qu'il soit, à quelque époque qu'il soit, c'est la joie. Pas parce que j'ai une bonne âme et que je suis un brave camarade et que je veux la joie pour tout le monde. Non, parce que c'est la nature même du désir humain. C'est d'arriver à l'accomplissement. Tous, nous avons raison, tous, de désirer quelque chose qui sera une intensité de vie plus vive, plus vaste, plus profonde, un peu plus tard qu'aujourd'hui. Tous les penseurs nous disent « illusion », tout ça, songeons au bouddhisme par exemple, « illusion », il y a la maya, il y a l'illusion. On oublie que la nature profonde, la plus profonde de l'être humain, c'est la liberté, et que cette liberté, elle est celle du désir, et que ce désir libre, ce libre désir est inventeur. Nous sommes inventeurs de sens. C'est l'intelligence du désir qui donne du sens à la vie.
Le désir pour Robert Misrahi est donc libre et inventeur. Je précise à nos auditeurs que nous parlons de l'œuvre de ce philosophe du XXe siècle, Robert Misrahi, disparu en 2023, qui a beaucoup réfléchi au désir et au bonheur, ça tombe bien. Désir et bonheur constituent notre question de cette semaine. Je suis en compagnie, de Catherine Lanfranchi, de Fabrice Guéot et d'Arnaud Münster. Et puisqu'on est sur le sujet de la liberté selon Misrahi, je voudrais encore vous faire entendre un texte de lui, un extrait de son autobiographie Le Nacre et le Rocher de 2012, où il enfonce le clou sur cette notion de liberté inventeuse, si l'on peut dire ainsi. Écoutez.
C'est par sa liberté que la conscience quotidienne la plus simple se fait allégresse ou déception, colère ou enthousiasme. Un même événement extérieur, par exemple le déroulement d'une compétition sportive ou l'audition de résultats électoraux, déclenchera, produira des réactions diverses chez un même sujet, ou chez différents sujets à différents moments. Joie, enthousiasme, déception, tristesse. Toutes ces réactions sont en fait des actes, des choix intentionnels d'attitude et de qualifications émotives. Ces choix expriment la personnalité et les choix antérieurs du sujet, c'est-à-dire son désir. C'est là une des acquisitions les plus importantes de mon parcours réflexif. Et je mets au premier plan des résultats cognitifs de mon récit le fait que tout individu, étant un dédoublement conscient et dynamique, est ipso facto la source active de ses humeurs, de ses attitudes et de ses intentions. En cela consiste ce que j'appellerais le stade premier, le niveau premier de la liberté. Tout le monde, toujours, est la source autonome de ses propres états d'âme, qu'il s'agisse d'humeur, d'attitude, d'intention, de vécu ou de désir.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
La phrase que nous venons d'entendre et qui achève ce texte, phrase de Robert Misrahi, est troublante. Tout le monde, dit-il, toujours, est la source autonome de ses propres états d'âme, qu'il s'agisse d'humeur, d'attitude, d'intention, de vécu ou de désir. Autrement dit, nous sommes responsables de nos choix qui nous ont rendus heureux ou malheureux. Je voudrais qu'on ait une discussion vraiment là-dessus, Arnaud Münster, parce que vous êtes un spécialiste de pensée du XXe siècle, d'œuvres qui ne voit pas du tout les choses ainsi. Par exemple, Marcuse, qui a un rapport très fort à la psychanalyse, sur lequel vous avez beaucoup écrit. Il sait bien que nous dépendons d'un certain état de la société, qu'il y a même une part tragique, en effet, dans la culture. Je dis en effet, parce que tout à l'heure, on a évoqué Sartre et le fait que Misrahi le trouvait trop tragique. Mais oui, chez Freud, dans Malaise dans la civilisation, désormais traduit Malaise dans la culture, 1929, il y a des contradictions internes à la société, à la culture, qui n'aident pas l'individu à être heureux. Et toute la question pour les penseurs de Francfort, dont Marcus faisait partie, était de dessiner un chemin d'émancipation en prenant en compte ces structures. Bon, ce ne sont pas des structuralismes, mais cette pesanteur sociale. Vous connaissez cela parfaitement, Arnaud Münster. Ça n'a quand même rien à voir chez Misrahi. Et qu'est-ce qui vous a attiré, vous qui connaissez si bien Marcuse, Freud, Ernst Bloch, Günther Anders, etc., dans un personnage philosophique comme Robert Misrahi, qui est très loin de tout cela?
Oui, effectivement. À première vue, ce qui m'a attiré, faut dire que j'ai le premier contact que j'ai eu avec Robert Misrahi, c'était au colloque International Sartre que j'ai organisé à Amiens au mois de mai 2005 à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Sartre. Et j'étais ce qui m'a fasciné chez lui, donc pour ma première compte, évidemment que j'avais en face de moi un grand philosophe, donc qui n'avait pas encore peut-être la grande reconnaissance internationale qu'il méritait, mais justement qui avait de l'originalité, était effectivement de tenter de faire cette synthèse entre Spinoza et Sartre. Mais d'un autre côté, il avait aussi, à cause de son grand intérêt pour la psychanalyse, une fenêtre, je dirais, par exemple, pour l'école en direction de l'école de Francfort.
Ah bon?
Et notamment aussi pour, elle était par exemple aussi un des premiers lecteurs du Principe Espérance d'Ernst Bloch, lorsqu'il a proposé une traduction du premier tome du Principe Espérance, qui a été publié par Gallimard en 1976. Un des premiers professeurs en France, évidemment, qui a lu ce livre, et ça l'a fasciné. Mais surtout, il y avait un rapport, quand on lit attentivement le traité du bonheur, alors on tombe sur un chapitre intitulé « Le désir ou l'institution », c'est un chapitre sur Herbert Marcuse. On se rend compte qu'il a effectivement assez grande admiration pour l'auteur d'Eros et civilisation et de l'homme unidimensionnel, mais une admiration qui n'empêche pas de formuler en même temps certaines critiques à l'égard de ce grand penseur de l'école de Francfort. Donc c'est compliqué parce que, par exemple, Marcuse, certes, affirme Marcuse, avec sa lecture radicale de Freud, et surtout avec sa théorie de la surrépression, est un penseur authentiquement progressiste. Il reconnaît que le grand mérite de Marcuse, son utopisme fondé sur la distinction des deux niveaux de répression, la répression soi-disant normale de la civilisation chrétienne et la surrépression rajoutée par la société industrielle, consiste à affirmer contre Freud, contre le pessimisme de Freud, la possibilité d'une société où bonheur et civilisation seraient compatibles, où liberté et institution n'entreraient plus en conflit. Tandis que pour Freud, le bonheur n'est pas une valeur culturelle. Pour Marcuse, il s'agit au contraire de montrer qu'une bonne part de la répression étant devenue superflue, les réalisations même de la civilisation répressive semblent créer les conditions préalables de l'abolition progressive de la répression. Et c'est un aspect qui l'intéressait beaucoup. Vous serez intéressé d'ailleurs aussi beaucoup aussi à Wilhelm Reich, l'auteur de la Révolution sexuelle.
Qu'il ne faut surtout pas confondre avec Marcuse. On le fait beaucoup trop souvent, alors que Marcuse, dans Eros et Civilisation, répond explicitement à quel point il dit à quel point il n'est pas d'accord avec Reich. Bon, mais enfin, tous ces auteurs, surtout Marcuse, peut-être plus encore que Reich, il part de Freud, la complication, de la difficulté à être heureux dans la société. C'est sûr qu'il cherche le bonheur, malgré tout. Mais on a l'impression que chez Misraï, il veut aller vers le bonheur sans les complications. Ça, il suffit de le désirer, de se convertir. Ça n'a strictement rien à voir. Fabrice Guéot.
Alors, pas tout à fait. Et votre émission de mardi dernier, il y a une dame qui parlait de la psychanalyse en disant...
Oui, Isabelle Alfandari, il y a un livre sur la séduction qui vient de paraître.
Et qui, au détour d'une phrase, dit la psychanalyse avec Freud a commencé avec la séduction, mais... elle est aussi, la séduction, c'est aussi l'échec de la psychanalyse. Et en fait, avec Misraï, on comprend parfaitement pourquoi, sachant que moi-même, j'ai pratiqué en tant qu'analyste dans ma jeunesse, c'est tout simplement que la psychanalyse ne voit que la moitié du psychisme, mais elle ignore complètement la conscience. Et à partir du moment où des contenus psychiques, des contenus même névrotiques deviennent conscients, alors il y a l'insight, on peut parler de Ferenczi, on peut parler de tous ces analystes, Thomas Zatz et ainsi de suite. Effectivement, chez Freud déjà, c'est la prise de conscience qui est thérapeutique. Mais qu'est-ce qui se passe dans la conscience de l'analysant? Au bout du compte, si vous consultez le corpus analytique, on a assez peu de textes, mis à part chez Binswanger et puis l'analyse existentielle plus tard où ça a commencé. Mais là, on n'est plus dans un espace strictement freudien. En fait, ce que montre Misraï, c'est que d'abord, il donne une définition nouvelle du désir. C'est-à-dire que le désir, c'est pas du tout la pulsion, c'est pas du tout un truc mécanique. Bon, j'ai envie de manger une tarte à la crème, et puis, ah oui, mais je suis au régime, donc c'est embêtant, ma volonté va me dire que je devrais pas. En fait, si je suis véritablement convaincu, en toute conscience, que la tarte à la crème, certes, c'est bon, mais ça risque de me faire du mal, eh bien, la nature même de mon désir change complètement. Parce que le désir est un acte, et comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas différentes parties. Au pire, si je n'arrive pas à me contrôler, à ce moment-là, en toute conscience, je vais aller voir un thérapeute, un psychanalyste, un comportementaliste, un cognitiviste, etc. Et le fait même qu'on puisse décider d'entamer une analyse, eh bien, ça prouve déjà qu'on dispose d'un certain degré d'autonomie et qu'on n'est pas du tout le jouet mécanique de son inconscient.
Ce qui est exactement ce que pensait Freud. La conscience, ça existe très fortement pour lui, sinon il n'y aurait pas de cure analytique
oui,
possible.
Absolument. Simplement, il ne développe pas en détail une analyse de la conscience, parce qu'il n'est pas phénoménologue.
Alors vous occupez aussi des gens, de leur bien-être, Catherine Lanfranchi. Il y a quelque chose de très concret dans votre intérêt pour Misrahi. Le bonheur, c'est un sujet quotidien pour vous. Vous travaillez avec les gens sur leur bien-être physique, psychique. Vous leur faites faire du sport. Vous êtes quand même un peu une soignante au sens large du soin. Vous prenez soin des gens. Misrahi vous est apparu comme une lumière théorique pour penser vos pratiques.
Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est une sorte de lumière, j'aime bien le mot. C'est vrai que lui et moi poursuivions finalement le même but, c'est effectivement le bonheur. Et le bonheur pour moi, effectivement, ça passe par un corps libre et un esprit libre. Quand on a un corps libre, eh bien on a pas trop mal, et on va bien. Et quand on a un esprit libre également. Alors après, l'esprit, comment a-t-on un esprit libre ? Il y a plusieurs méthodes. La psychanalyse en est une. Moi-même, j'ai aussi fait un peu de divan. Et puis, il y a la méthode de Misrahi, qui est effectivement une autre méthode, mais ça ne suffit pas. C'est un long travail, qu'il soit psychanalytique ou misrahien. Et c'est tout ce travail de la conversion, en fait. Avec deux niveaux du sujet, peut-être qu'on en parlera. Il y a le sujet du début qui est effectivement assez désorienté, malheureux. Et ensuite, grâce à la conversion, il va s'élever. La conversion étant une réflexion un peu plus poussée, il va s'élever vers le bonheur. Mais c'est un travail.
C'est un travail ou c'est une décision ?
Alors, c'est une décision et un travail.
Je ne vois pas très bien en quoi il y a travail. J'ai l'impression que c'est un
long
choix et une conversion.
Alors, la conversion, si vous voulez, c'est deux choses à la fois. C'est à la fois une longue réflexion culturelle, hein, pourquoi pas psychanalytique, c'est un travail théorique. Et ensuite, Misrahi le décrit bien, c'est un acte. C'est-à-dire que tout d'un coup, fort de toute votre expérience, vous apercevez que ça ne peut plus durer. Et donc, il faut changer. Et cet acte est un acte, pour le coup, un acte de liberté, et on change tout, on renverse tout. La conversion, c'est un renversement, une sorte de révolution. Il n'aime pas le mot révolution, il parle de... Bon, mais c'est ça, la conversion. Donc, si vous voulez, c'est un travail, oui, parce que c'est long, et en même temps, c'est un acte, une décision, parce que vous, à un moment donné, vous décidez de changer. Voilà.
Et c'est une conversion à la philosophie, et c'est une conversion à la nécessité du travail philosophique. En fait.
Alors, l'idée d'une décision qui engage ensuite, j'ai compris, un travail philosophique, Arnaud Münster, ça n'a quand même vraiment rien à voir avec les penseurs dont vous me dites que Misrahi les avait lus, il s'intéressait à Marcuse, mais chez Marcuse, on ne devient pas heureux et on ne règle pas les conflits de la civilisation qui se répercutent dans l'individu par une décision. Je voudrais vous poser la question de cette façon. Est-ce que, avec tout le respect et l'admiration que nous avons pour Misrahi, nous lui rendons hommage ce matin, on peut dire quand même que le rapport au tragique n'est pas très grand chez Misrahi, et vous, Arnaud Münster, qui travaillez sur des auteurs qui ont un très fort rapport au tragique, est-ce que vous n'avez pas senti un manque, là, de votre point de vue, dans la pensée de Misrahi ?
Oui, évidemment, ça touche évidemment au problème aussi, au complexe qu'elle a eu à Sartre, évidemment, que lui fait ce reproche, justement, est-ce que c'est une phénoménologie tragique. Mais évidemment, c'est compliqué, parce que... il y a... l'intérêt, mais le, veut dire le rapport que Robert Massary a au grand représentant de l'école de Francfort, notamment à Herbert Marcuse, est compliqué parce qu'il comporte aussi une critique. Et cette critique qu'il fait, c'est du point de vue d'un philosophe, évidemment non marxiste, qui a un problème grave, difficile avec Marx, le reproche d'avoir utilisé des stéréotypes antisémites dans son essai de 1883 sur la réflexion sur la question juive, etc. Donc, qui contourne donc un peu ce qui est le cœur même de toute philosophie marxiste, y compris celle du feudo-marxisme francfortois. Mais c'est dans cette perspective que Misraï adopte un point de vue. Il reproche à Marcuse, malgré son admiration pour sa critique de la répression, etc., il reproche d'avoir adopté un point de vue essentiellement sociologique en démontrant notamment que l'activité répressive a bien une origine sociale, qu'elle soit destinée à l'instauration de la culture ou à l'établissement du pouvoir. Donc, il souligne que, évidemment, la répression a bien une fonction, comme dit Marcuse, d'écraser dans l'individu le désir, la libido. Mais, évidemment, il n'en tire pas les conséquences nécessaires, à mon avis, et on pourrait critiquer cela, parce qu'évidemment, il écarte dans son analyse, dans sa philosophie phénoménologique existentielle, focalisée sur le bonheur. Avec sa critique aussi du déterminisme chez Spinoza, il écarte toutes les possibilités de détermination de la conscience par des facteurs sociaux économiques. Et comme ça, donc, il prend le contre-pied évidemment de la position marxiste. C'est ça. C'est-à-dire, selon Misraï, cette théorie sociologique marxiste de la répression et de sa fonction sociale et civilisationnelle de Herbert Marcuse, elle se résume en quatre points. Hein. Premièrement, je peux résumer ça très rapidement. Hein. Un, l'agent oppresseur, c'est la société globale et capitaliste, c'est-à-dire l'institution. Deux, la victime est écrasée. La victime écrasée est l'individu, c'est-à-dire le désir. Trois, la libération de l'individu du désir ne saurait provenir que d'une action politique, c'est-à-dire d'une transformation sociale radicale. Marcuse est pour la révolution, hein, oui. Socialiste, il n'y a pas le moindre doute, mais pas pour le sens des régimes autoritaires soviétiques de l'Est, etc. Quatrièmement, les options politiques possibles consistent ou bien à choisir la société contre l'individu, l'institution contre les désirs, c'est l'option conservatrice, ou bien choisir l'individu futur contre la société actuelle, c'est-à-dire en fait la société future contre la société actuelle. Or, Misraï pense, et c'est cela sa critique des thèses du positionnement philosophique et politique de Marcuse, que ce réalisme sociologique, que cette opposition par Marcuse de l'individu à la société serait inadéquate à la réalité complexe de nos sociétés, qu'elle comporterait en outre un inconvénient majeur, c'est-à-dire rendant les individus incapables d'agir jamais par eux-mêmes et le tenant exclusivement pour des victimes. Donc il interdit en fait toute action efficace. Les individus sont aussi passifs qu'innocents, tandis que les institutions sont aussi coupables et qu'intangibles, même si pour défendre leur pouvoir, ils imposent aux individus d'intérioriser leur culpabilité. Donc c'est sous cet angle que Misraï reproche à Marcuse sa méthodologie sociologique marxiste, son réalisme sociologique, réductible, estime-t-il à un chosisme politico-social, où les seules réalités sont objectives et sociologiques et pensées comme des extériorités qui agissent selon des mécanismes. Et c'est dit pour conclure que Marcuse, le tissu de la nécessité est tel qu'on ne peut même pas rendre compte dans son système du surgissement des minorités marginales ou des activités contestatrices, qu'elles soient individuelles ou collectives.
Merci beaucoup.
Or, ces affirmations, Misraï, on peut dire, sont quand même un peu démenties par par, évidemment, tout ce que Marcuse écrit, par exemple, au sujet des minorités, au sujet
oui, des classes et des révoltés, de finir des marginaux,
dans son livre « Vers la libération ». Elle vit fortement inspirée des événements de 1968.
Bon, merci pour cette explication qui montre l'ampleur du débat, peut-être souterrain, de Misrahi et de Marcuse. Et puis merci pour votre honnêteté, Arnaud Münster. Vous terminez en suggérant que Marcuse a quand même touché des points qui auraient dû perturber davantage Misrahi.
Regarde, quelque chose a changé. L'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Regarde, sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé, c'est indéfinissable. Un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, le cœur en amoureux. Regarde ces fanfares et musique, teintes amères et magiques, féeriques. Regarde, moins chagrin, moins voûté, tous ils semblent danser, leur vie recommencer. Regarde, on pourrait encore y croire, il suffit de le vouloir, avant qu'il ne soit trop tard. Regarde, on en a tellement rêvé, que sur les murs bétonnés, poussent des fleurs de papier.
Vous aurez reconnu Barbara, la chanson « Regarde » de 1981. C'est une chanson sur l'émerveillement du quotidien, la conversion peut-être au sens de Mitraille, mais c'est aussi une chanson qui saluait François Mitterrand, la victoire, un homme, une rose à la main, a ouvert le chemin. Et je crois savoir, Fabrice Guéot, que cette allusion politique a compté dans votre proposition que nous écoutions cette chanson à la fin de l'émission.
Tout à fait, parce qu'elle est une parfaite illustration du principal reproche que Misrahi adresse aux politiques en général et à la gauche en particulier, c'est d'avoir ignoré les enjeux éthiques d'un changement de régime politique, économique, etc. Alors même que, par contre, la population, le peuple, lui, il était au contraire sensible à cet aspect éthique de la politique. C'est-à-dire que, et ça fait écho à l'hymne socialiste dans les années 70, « Changer la vie », avec la musique de Théodorakis. En fait, lui, ce qu'il considère, donc ce qu'il décrit, Robert Misrahi, c'est la nécessité de fonder toute réflexion politique d'abord sur une éthique. Et quand on est parvenu à des propositions éthiques importantes et vraies, alors et alors seulement on peut construire une politique. C'est ainsi que il donnait une grande importance dans les manuscrits de 1844 de Marx, aux pages 60 et 90 dans l'édition sociale, c'est-à-dire Marx qui parle de l'homme générique, etc., qui peut déployer en lui toutes les potentialités humaines, au-delà du tragique, dont il avait l'habitude de dire que tout le monde en a parlé, le tragique, tout le monde l'a décrit, et donc il faut d'abord poser les objectifs éthiques, c'est-à-dire la vraie joie, le vrai bonheur post-conversion, et ensuite seulement se poser la question des moyens.
Merci. Impossible d'ouvrir un débat sur la gauche à ce stade. Nous sommes à la fin de notre émission, mais en tout cas, merci d'avoir fait toutes ces suggestions théoriques. Ça nous aide à réfléchir. Arnaud Münster, Catherine Lanfranchi et Fabrice Guéot, merci pour cette émission avec vous, en hommage au penseur Robert Misrahi. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui s'intéresse cette semaine aux disciplines. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi les révolutions sont-elles interdisciplinaires? disciplinaire. La question de l'interdisciplinarité peut sembler très technique, à la fois technique en philosophie, pourquoi les disciplines se découpent-elles et comment le dépasser, et technique en politique de l'enseignement ou de la recherche, comment faut-il les découper dans l'enseignement et dépasser ce découpage, en appeler à l'interdisciplinarité. En réalité, l'interdisciplinarité est un fait très profond dans l'histoire des savoirs et même un fait qui donne lieu à des renversements radicaux qu'on peut appeler des révolutions scientifique et aussi sociale et politique. Peut-être même n'y a-t-il pas de révolution dans l'histoire du savoir qui ne soit interdisciplinaire si on veut l'apprendre par ce qui n'est pas seulement un petit bout de la lorgnette. Quand Descartes, par exemple, inventa une nouvelle technique mathématique après Galilée, une technique de calcul qui neutralise aussi, qui peut s'appliquer à tous les objets du monde de manière objective et neutre. Quand Descartes inventa l'algèbre, la géométrie analytique et qu'il permit de mesurer sans préjugés philosophiques sur la nature des choses la vitesse ou la masse d'un déplacement, le calcul s'étendant à tous les objets du monde, alors cette révolution mathématique s'étendit à tous les domaines. Spinoza lui-même écrivit son éthique à la manière des géomètres, Ethica More Geometrico. Il appliqua la géométrie à la connaissance de la nature humaine et il prétendait traiter des passions comme les géomètres traitent des figures, traite des carrés, des triangles et calcule au fond leur rapport. Ce n'était pas seulement une image. La révolution rationaliste de l'âge classique, c'est une révolution qui fait passer le modèle mathématique dans tous les domaines de la vie. C'est ainsi que Leibniz inventa le calcul infinitésimal qui lui servit à penser la physique, l'énergie vive, mais aussi la métaphysique de la vie humaine. Le calcul infinitésimal est une révolution interdisciplinaire. Souvent, ces révolutions interdisciplinaires viennent des mathématiques, mais ce n'est pas seulement le cas. Michel Foucault a étudié dans les mots et les choses la façon dont de nouveaux modèles du langage, du travail ou de la vie émergent au tournant de la Révolution française. Et la révolution einsteinienne est aussi une révolution, mais venue de la physique, même si elle est physique mathématique. Aujourd'hui, la révolution interdisciplinaire majeure est une révolution qui passe par une nouvelle pratique de l'interdisciplinarité où tout se joue. C'est la révolution du calcul, la révolution de l'intelligence artificielle immédiatement liée à d'autres disciplines, par exemple le langage, la santé ou les disciplines climatiques. L'interdisciplinarité est imposée ici d'une manière profondément nouvelle, rapide, puissante, avec des perspectives profondément révolutionnaires pour le meilleur ou pour le pire. La révolution ici n'est pas une image, ce n'est pas seulement une sorte d'idéal philosophique, elle est déjà à l'œuvre. Il faut tenter aussi de l'orienter, de la maîtriser, cette révolution interdisciplinaire, nous sommes dedans. Vers quoi cette révolution va-t-elle mener? Vers une tyrannie ou vers une émancipation? C'est au cœur de l'interdisciplinarité que se jouent ces enjeux, comment la médecine, la linguistique, au cœur de nos vies humaines par exemple, et les sciences du climat, vont-elles avec l'informatique et les mathématiques construire un nouveau modèle de la vie humaine.
Merci Frédéric Worms. Et merci à Nicolas Berger, notre réalisateur, qui a donc réalisé cette émission avec à la technique Noé Chaban. Merci à Anna Fulpin de l'équipe d'Avec Philosophie qui m'a aidé à la préparer. Et puis à tout le reste de l'équipe, bien évidemment, Carla Michel, Armance Bourquin, Chaïma Giboire et Nassim El Kabli. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.